Audiolib présente Les nuits que l'on choisit. Chronique judiciaire en France. D'Élise Costa. Lue par l'autrice. Si je ne les écris pas, les choses ne sont pas arrivées à leur terme. Elles ont seulement été vécues. Annie Ernaux. Il ne faut pas regarder l'honnête homme de trop près si vous tenez à lui conserver votre estime. Ni le scélérat si vous tenez à lui conserver votre mépris. Jean Rostand. À ma fille, qui quand j'écris, m'écrit aussi et glisse ses petits mots sous la porte de mon bureau. Note de l'autrice. Tous les événements et toutes les personnes citées dans ce récit existent ou ont existé. Tout est vrai. Mais cette histoire est, comme tous les récits écrits à la première personne, avant tout ma propre vérité. Ainsi, j'ai relu mes carnets d'audience, fouillé dans mes anciennes photos, conversations et notes personnelles, et convoqué mes souvenirs en écoutant la musique qui m'avait servi à raconter certaines affaires. Dans un souci de cohérence du texte, certains détails chronologiques ont été modifiés, sans que cela ait d'incidence sur les faits. Vous vous demanderez sûrement si les affaires criminelles relatées ici ne seront pas trop dures à lire. Mon curseur du sordide étant cassé depuis longtemps, je ne peux pas répondre à cette question. Mais je peux vous promettre, en revanche, que le crime n'est pas la raison d'être de ce livre. Le crime n'est qu'un prétexte. J'espère qu'en le refermant, vous en saurez plus sur l'humanité et l'inhumanité en chacun de nous. C'est la dernière fois que je raconte cette histoire. La dernière fois que je dis « tout a commencé ». Car je me rends compte que, chaque fois, je cherche un nouveau détail, une autre sensation qui a pu me parcourir pour enrichir le récit. Chapitre 0. 29 mars 2019, 14h15. Monsieur Dejean, après en avoir délibéré, la cour vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Cri de stupeur. Dans les toilettes du palais de justice, une goutte de sang tombe dans le lavabo. Un instant, elle s'agrippe à la céramique blanche, puis glisse vers le siphon. Je relève la tête vers le miroir. Un mince filet de sang coule de ma narine. Le distributeur de papier ne fonctionne pas. J'ouvre le robinet d'eau, m'essuie en toute hâte d'un revers de main et sors. Assise sur un des bancs en béton du tribunal, je laisse mon regard se perdre dans le vide. Chaque salle des pas perdus est unique en son genre, mais toutes ont le même mouvement. Un mouvement semblable au hall de gare. Des hommes de tous âges et des femmes issues de tous les milieux qui, poussés par le vent extérieur, arpentent les couloirs. Excepté qu'ici, leurs bagages sont invisibles. Je les vois traîner leur ambition, leur anxiété héréditaire et leur prétention à une vie meilleure. Entre les colonnes de marbre, je fixe la porte de la plus ancienne salle d'audience du palais. Un avocat la tire de l'intérieur et en sort. À la lueur des lampes, j'entrevois les murs drapés de velours bordeaux et le bois austère du pupitre au centre de la salle. Un après-midi de 1994 me revient. Je suis allongée, à moitié nue, sur une table d'examen en bois. Ma mère attend dans la pièce à côté, les radiographies posées sur ses genoux. Un homme en blouse blanche me dit de ne pas m'inquiéter. Je sens qu'on retire les planches de la table, une à une. Des bandes de plâtre humide sont enroulées autour de mon torse.